bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il y a énormément de nouvelles personnes, ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre visite ce matin, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Nous allons avoir deux baptêmes tout à l'heure, nous sommes vraiment réjouis, nous sommes dans la joie de vivre ce moment. Soyez les bienvenus, les nouvelles personnes, les plus anciens, entre deux, ceux qui sont aussi à la maison en streaming. Nous vous accueillons tous. Je vais commencer par prier. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour la joie qui nous accompagne, pour cette belle journée avec ce beau temps, ce beau soleil qui illumine aussi nos cœurs. Merci pour le temps que nous allons vivre maintenant. Et nous te bénissons et nous te louons. Amen. Est-ce que vous voulez une bonne nouvelle? Alors, il y a une petite naissance dans la famille des Nold. Priska et son, vous êtes là. Donc, ils sont une petite fille qui est née le 21 juin, premier jour de l'été. Donc, Lisa chez Yannick et Anne-Catherine. Sixième petit enfant, bravo. Alors, le culte va se dérouler de cette façon-là. Je vais faire une petite introduction. Je vais m'adresser aux enfants. Les adultes, vous pouvez écouter et aussi voir un peu. Et ensuite, on va avoir un moment de chant. On aura deux chants. Ensuite, une introduction, c'est quoi un baptême? Et ensuite, nous allons avoir les témoignages de Telmo et de Kevin. On va les baptêmes. Et ensuite, les enfants seront accompagnés dans leur groupe en bas. Et nous remercions déjà les moniteurs qui les accompagnent. Ensuite, nous aurons un moment de prédication, un moment de prière. Et voilà, vous verrez bien. Donc voilà, je vais prendre le micro ici. Voilà. Donc les enfants, pouvez-vous vous mettre là devant. Ceux qui sont derrière, pouvez venir devant. Voilà. Je vais vous raconter une histoire vraie. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui s'appelle Nard Pugyao. On peut mettre la première slide. On espère que ça joue. Sinon, j'ai prévu la vieille technique. Voilà. Alors, l'histoire, c'est ce petit garçon que vous voyez sur la gauche. Il est un petit peu plus âgé que moi, mais je l'ai connu et j'ai même travaillé avec lui. Donc, il vient des Philippines. Les Philippines, c'est des îles, un archipel d'îles. Au sud de la Chine, du Vietnam, là, il y a des centaines d'îles. Et lui, il vient de l'île de Luzon, tout au nord, dans les montagnes, dans la jungle. Et puis, il vient du village de Dibagat. Vous pouvez mettre la suivante. Et il habite dans une région, c'est tellement retiré, qu'il fallait 16 heures en canoë ou en pirogue remonter la rivière pour aller chez lui. On peut mettre la suivante. Donc, il vivait dans voilà, ce genre de son village. Donc, il n'avait jamais vu une voiture ou un avion ou une machine ou quoi que ce soit. Et il vivait dans son village. Et son groupe ethnique ou sa tribu, si on ose encore le dire, sont à peu près 43 000 personnes, donc deux fois la population de Merin à peu près. Hein. Et il parlait une langue, l'isnak. L'isnak. Donc, il vivait aussi presque un petit peu à des centaines d'années par rapport à nous. Et ils étaient animistes, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu ou en Jésus-Christ. Personne ne leur avait parlé. Et ils étaient animistes, c'est-à-dire qu'ils avaient peur des esprits, il y a des bons et des mauvais. Et ils vivaient sous cette crainte des esprits. Donc cette tribu vivait là. Et aussi, ils faisaient la guerre entre les différents groupes. Et malheureusement, c'est quand même terrible, quand ils attrapaient un ennemi, ben, ils le tuaient. Ensuite, ils lui coupaient la tête. On les appelait les chasseurs de têtes. Ça se fait plus heureusement depuis un bon moment, mais voilà, c'était leur trophée de guerre. Alors un jour, en 1956, juste après que je sois né, il y a quelqu'un, un blanc, est arrivé avec une pirogue, là, et puis il est arrivé, puis il ne savait pas quoi faire avec ce gars. C'était un linguiste, quelqu'un qui voulait traduire la langue. Et puis quand il est arrivé, et ben voilà ce que dit Dinard. On lui a demandé... « Mais pourquoi es-tu là? Mais qu'est-ce que tu viens faire chez nous ?» Puis il répond, ben, « C'est pour apprendre votre langue. Ben, »« Pourquoi faire ?»« Ben, c'est pour vous donner la parole de Dieu dans la langue de votre cœur, votre langue maternelle. »« Dieu, mais Dieu, c'est qui ?»« Ben, il répond, dit qu'il répond, ben, c'est le créateur de l'univers. Il a créé tout ce que vous voyez autour de vous et il vous a créé, vous, les Lisnag. Est-il puissant? Puis il répond, oui, il l'est. Mais plus puissant que le monde des esprits qui contrôle notre vie, la vie des Lisnag, depuis la nuit des temps, il est plus puissant que les chasseurs de têtes, nos ancêtres. Et il a répondu, oui, bien plus puissant. Alors quand ce gars, il a commencé à dire qu'il était bien plus puissant, alors on a commencé à l'écouter et puis on a commencé à lui apprendre la langue. Et 4 années plus tard, il a commencé la traduction de l'évangile de Marc. Et puis Nard, il raconte, alors en 1963, un jour, c'était le jour de Noël, c'était un jour tout à fait ordinaire chez eux, Noël, ils ne connaissaient pas encore. Et puis... Il est descendu en bas du village, il a pris une copie de l'évangile de Marc, une partie, il a commencé, s'est assis sur un rocher, il a commencé à lire les chapitres 14, 15 et 16, qui raconte la crucifixion de Jésus. Puis Nard, il dit, ah, mais je ne pouvais pas comprendre, que le Dieu de ce missionnaire qui est si puissant, il n'est pas capable de protéger son fils qui est en train d'être crucifié. Être en train de crucifier sur la croix. À ce moment-là, au moment où ils ont commencé à le clouer, à clouer ses mains, ben Lisnag, il a dit, je suis devenu furieux, fâché, et puis il a lancé le testament par terre, et il est parti. Il est remonté au village. Puis remontant au village, tout d'un coup, il a commencé à dire « Je voulais croire en un Dieu qui est puissant, qui est capable de me protéger des esprits, mais il était incapable de protéger son fils quand ils l'ont cloué. Et moi, je ne veux pas un Dieu comme ça. » Et puis en marchant petit à petit, ça commence à réfléchir et il a entendu cette voix, il dit « Nard, tu comprends? Tu ne comprends pas combien je t'aime ?» Et puis c'est pour la première fois qu'il a commencé vraiment à que ça rentre au fond de lui et à comprendre tout l'amour que Dieu avait pour lui. Et il a décidé de lui faire confiance et de lui donner sa vie. Et puis Nard, que j'ai entendu il y a quelques jours sur une vidéo, il dit, essayez d'imaginer s'ils n'étaient pas venus, si Dick et puis les autres n'étaient pas venus un instant. Essayez d'imaginer que quand la première fois de votre vie vous entendez ce verset qu'on va voir maintenant dans votre langue maternelle et qui vous parle jusqu'au fond. Tu peux lancer la vidéo. Est-ce qu'on peut la remettre plus fort, peut-être? Vous avez reconnu quel verset c'est? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que personne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, il y a juste quelques jours qu'il a fait cette vidéo. Et c'est quand même incroyable. J'ai juste appris cette semaine qu'aujourd'hui, chez les Lisnag, après 66 ans, ils sont en train de dédicacer, ils sont en train de faire la grande fête. Ils ont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, Nard est sur place. Il rêvait de pouvoir présenter. La fin de l'histoire, c'est que Nard, quand il a grandi, il a pu commencer à faire des études et puis il a pu apprendre la technique. Il n'avait jamais vu une machine et puis il est devenu pilote, pilote d'avion et d'hélicoptère. Et puis il est devenu pilote missionnaire. Et c'est lui qui, en 1982, le 24 juin, il a amené les premières copies du Nouveau Testament dans son village avec un avion. Voilà, donc Nard a compris la valeur, la puissance de ce verset. On aura tout à l'heure aussi nos deux jeunes qui vont se faire baptiser. Je crois qu'ils ont aussi compris quelque chose. Ils vont nous le partager. Et je remercie d'avance. Voilà. On va maintenant chanter deux chants avec le groupe. Je vous laisse vous mettre en place. Merci d'avance.
Reconnaissant ce matin d'être réunis en ton saint nom. Tu as réalisé pour nous le plus grand des sacrifices d'amour, le plus beau. Ça illumine nos vies chaque jour. Merci de nous avoir délivrés de nos péchés, de nous avoir sauvés. Amen. Amour véritable, je t'accepte, tu es.
Bonjour à chacun, à chacune. Je m'appelle Philippe Onchaud. J'ai le bonheur, l'honneur d'être le pasteur de l'église évangélique de Mérin. Je le dis pour celles et ceux qui arrivent ce matin. Vous êtes là peut-être pour la première fois et vraiment merci d'être là pour Telmo, pour Kevin. C'est un très grand jour pour eux et c'est un immense bonheur pour nous de les accompagner dans cette étape. Merci pour votre présence à chacun, à chacune. Merci aux équipes qui rendent possible l'organisation d'un tel culte. Roger à la présidence, il y a Daniel et Alex à la technique et ce matin il y a du lourd. Donc merci d'être là avec nous. Il y a Raymond qui s'occupait du baptistère, Francine de la logistique. Voilà, il y a toute une équipe et c'est super précieux de pouvoir vivre les choses comme ça dans une église en équipe. En tout cas, on est heureux de vivre ce temps et puis je trouve important de redire un peu le sens du baptême. Alors normalement j'y arrive, pas toujours, magnifique, la classe, merci Alex. De quoi le baptême est-il le nom? Autrement dit, pourquoi est-ce que Kevin, Telmo, vous vous faites baptiser ce matin? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est bien joli de faire un geste fort, un geste symbolique, mais si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière le geste, franchement, le baptême ne fait que mouiller. Alors pourquoi se faire baptiser? D'abord, parce que le baptême, il répond à une volonté expresse de Jésus. Dans les dernières instructions que Jésus a laissées à ses apôtres, on est à la toute fin de l'évangile de Matthieu, le baptême est un commandement que Jésus donne pour tous les temps. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus qui l'a dit, et non seulement il l'a dit, mais il l'a dit juste avant de quitter ses disciples. Ce sont ses dernières paroles. Être baptisé ce matin pour vous, Telmo, Kevin, c'est s'inscrire volontairement dans cette grande histoire. Il y a plus de 2000 ans d'histoire derrière nous, d'histoire du christianisme. Et vous vous inscrivez ce matin dans cette grande histoire. Et puis, ce baptême, c'est un signe d'obéissance à Jésus. Vous montrez votre allégeance au Christ, au roi des rois. Thelmo et Kevin ont choisi leur préférence. Ce Christ qui les aime, ce Christ qui les a sauvés, ce Christ est digne de confiance. Ils ont placé leur confiance, leur foi en lui. C'est le geste initial de leur vie, ils vont vous l'expliquer tout à l'heure. C'est la foi qui sauve, c'est pas le baptême qui sauve. Le baptême est juste l'expression de cette foi. Et donc le baptême, c'est un geste très symbolique qui accompagne une foi bien placée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais notre vie en général est composée de toutes sortes d'actions symboliques par lesquelles nous manifestons nos sentiments, nos pensées, nos décisions. Ces actions symboliques montrent quelque chose de vécu à l'intérieur par quelque chose d'extérieur. C'est par exemple ce que nous faisons quand nous participons à une manifestation. J'espère qu'il y avait beaucoup de monde ici qui était présent dans la rue pour la journée de la grève féministe, parce qu'il y a des combats qui doivent être menés. Ce combat-là, nous le menons par des convictions intérieures qu'on manifeste extérieurement, dans un cortège, par une banderole ou un point levé. Les actions symboliques, elles saturent notre vie, de la naissance à la mort. À la naissance, on commence par couper un cordon ombilical. Il ne faudrait pas qu'il reste attaché. C'est symbolique, ça dit beaucoup d'ailleurs. Dans la vie, on le répète, t'as pas coupé le cordon ombilical. C'est symbolique, mais ça représente quelque chose d'important. Au moment de l'entrée dans l'âge adulte, il y a des choses qui se font, symboliquement. On fait une petite fête, une grande fête, si c'était le mot. Non ? Quand on a fini son armée, pour ceux qui ont eu le bonheur de la faire, on fait une petite fête aussi. Les actions symboliques, les décisions les plus importantes de notre vie sont marquées par des actions symboliques. On signe des actes officiels. Le premier bail qu'on signe, c'est important quand on prend son appart. Mais c'est symbolique. Le bail en lui-même, il n'est pas super décisif. C'est l'appart qui est décisif. Où on échange des anneaux. Je suis marié depuis un petit peu plus de 30 ans avec cette formidable dame, maintenant on dit demoiselle, avec Heidi, 30 ans. Et le truc qui le manifeste, ben c'est cet anneau. Mais c'est symbolique l'anneau. Il ne fait pas le mariage l'anneau. C'est symbolique. Il symbolise que je suis marié avec Heidi. Mais il ne fait pas notre mariage. Ce qui fait notre mariage, ben c'est l'amour qu'on a l'un pour l'autre, la fidélité, la tendresse. C'est ça qui fait le mariage. Les grandes étapes de la vie sont accompagnées d'actions symboliques. Et les actions symboliques, elles servent à montrer quelque chose de vécu à l'intérieur par quelque chose de visible à l'extérieur. Les actions symboliques, elles nous engagent. Elles nous font montrer nos couleurs. Alors qu'est-ce que symbolise le baptême ? Qu'est-ce que symbolise le baptême ? Là, j'y arrive pas. Stouk, t'arrives à l'avancer d'un slide, Alex ? Merci beaucoup. D'abord, le baptême, il est le symbole d'une union avec Christ. Nous lisons dans Colossiens 2, « Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez autrefois morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Le baptême, il symbolise en premier lieu le fait que nous sommes unis avec Christ. Celui qui se fait baptiser devient par son identification avec Christ un membre de son corps. Vous marchez avec lui. Et le corps de Christ aujourd'hui, c'est son Église. D'où le fait que votre baptême devient aussi symboliquement votre entrée officielle dans l'Église. Une union avec Christ. Une deuxième symbolique dans le baptême, c'est que le baptême symbolise une mort et un ensevelissement. L'apôtre Paul écrit « C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec Christ dans sa mort par le baptême. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Le baptême, il symbolise une identification avec Christ dans la mort. C'est l'idée dominante des textes sur le baptême. C'est l'une des significations essentielles du baptême, une identification à Christ dans sa mort. Et l'immersion, elle a certainement été choisie parce qu'elle représente de façon la plus simple une mort et un ensevelissement. Maintenant, pourquoi mourir ? C'est quoi cette idée ? Pourquoi est-ce que Telmo et Kevin devraient symboliser une mort et un ensevelissement ? Alors la Bible, elle est assez claire là-dessus. Elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nos péchés, nos fautes nous coupent de Dieu et nous entraînent à la mort. Mais dans sa grâce, Dieu nous offre la possibilité d'orienter nos regards vers la croix de Jésus, qui est mort pour nous, à notre place, en nous permettant, dit-il, de passer de la mort à la vie. Le baptême est ensuite le symbole d'une résurrection avec Christ, parce que tout ne va pas s'arrêter dans l'eau dans quelques instants. L'apôtre Paul écrit « Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Le baptême, il symbolise non seulement une union avec Christ, non seulement une mort et un ensevelissement, mais aussi une résurrection, une vie nouvelle, la grande, la belle vie, parce que Telmo et Kevin ont été sauvés par le Christ. La belle vie, la vraie vie. Et c'est un aspect capital de toute notre histoire spirituelle que représente le baptême dans ce moment où le baptisé sort de l'eau. Un instant auparavant, on a vu disparaître un pécheur dans une tombe liquide. Et un instant après, on le voit surgir hors de l'eau comme une nouvelle créature. La vie nouvelle. Le baptême est enfin le symbole d'un revêtement. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Revêtir le Christ, c'est comme changer d'habit. C'est comme changer d'habitude. C'est comme changer de comportement. C'est un jour qui marque le début d'une vie nouvelle. Enfin, au-delà de la dimension symbolique, le baptême, c'est aussi un engagement. C'est l'occasion d'un examen de soi. 1 Pierre 3, verset 21, « Le baptême ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une bonne conscience. » Le baptême, c'est un engagement. Ce n'est pas un bain, ce n'est pas une douche. C'est un engagement. Ils ne vont pas se purifier de leur éventuelle transpiration ce matin. Ils vont s'engager avec Dieu, qui s'est engagé avec eux. Et cet engagement, il va servir, j'espère, dans la vie de mes amis Telmo et Kevin, j'espère qu'il va servir comme un point de repère objectif. Un jour, c'est clair, je me suis engagé avec Dieu. Mais la vie, elle fait des hauts et des bas. La vie, elle charrie des difficultés, des défis. Il y a des engagements qu'on oublie. Et en même temps, aujourd'hui, c'est un point de repère objectif. 25 juin 2023, moi Kevin, moi Telmo, je m'engage avec une bonne conscience envers Dieu. Ça, c'est la valeur du baptême. Et puis le baptême, et je finis ici, c'est une occasion de dire sa foi, de confesser sa foi, dit-on dans la tradition chrétienne. C'est ce dignitaire éthiopien qui se fait baptiser par Philippe et qui dira « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». C'est l'occasion d'un témoignage, c'est l'occasion de dire un parcours. Et là, nous allons entendre Telmo et puis Kevin nous parler de leur parcours. Et c'est Telmo que j'appelle d'abord. Je t'invite à venir et on va entendre pour chacun. Viens, mon ami. Tcho, hein? Ça roule, ouais. Tout bien. Telmo, il va nous présenter son témoignage, mais aussi au moyen d'un chant, d'abord. Et puis, je trouverais vraiment important que tu nous dises pourquoi tu as choisi ce chant, et puis qu'ensuite, nous l'écoutions, voire nous le chantions, si vous le connaissez.
Ouais. Bah, du coup, bonsoir. C'est fou parce que cette blague, elle marche à chaque fois. Bon, du coup, moi, il y avait un chant qui me tenait à cœur de chanter, c'est « Je m'abandonne ». Et pourquoi j'ai choisi ce chant-là? C'est parce que, aujourd'hui, je veux m'abandonner à Dieu. Parce que je sais que j'ai envie de lui laisser les commandes de ma vie. Et j'ai envie qu'il vienne régner en moi. Et c'est pour cela que je veux chanter ce chant et que ce chant me tient à cœur. Je m'appelle Telmo Schneider. J'ai 21 ans et toutes mes dents. Et je suis en train de terminer ma formation de soins infirmiers. Enfin, je suis en train de terminer mon bachelor. Difficilement, mais on va y arriver. Je suis né en Colombie et j'ai été adopté par une extraordinaire famille, celle des Schneider-Walter. Et je suis venu dans cette église pour la toute première fois quand j'étais bébé. D'ailleurs, j'ai été présenté dans la chapelle en 2003, là juste à côté. Et je suis resté dans cette église jusqu'à mes 10 ans environ. Ensuite, j'ai suivi le catéchisme dans l'église de mon quartier. Pendant cette période, je ressentais un gros vide. Il n'y avait pas Jésus en moi. Et le caté, c'était pas très captivant pour moi. Et par la suite, j'ai rejoint un groupe de jeunes d'une église qui était en ville. Et j'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai pu apprendre ma vie spirituelle, ce que c'était la vie spirituelle. Mais il me manquait toujours quelque chose au fond de moi. Je voyais des miracles, des choses que je ne pouvais pas comprendre. J'ai participé à plusieurs rencontres comme la RJ ou Interjeune. Et c'est dans ces moments-là que j'ai commencé à douter. Est-ce que je suis assez bon? Et si tout ce qui se passe dans leur vie n'arrive pas dans la mienne, est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez croyant? Est-ce que je suis pas un bon chrétien? Toutes ces questions me travaillaient. Et dans ce groupe de jeunes, personne ne me proposait de vraiment discuter. Et ce qui me permettait de ne pas avoir de réponse à mes questions. À part en parlant avec mes parents et ma sœur, Léana. Malheureusement, on a dû quitter ce groupe de jeunes suite à plusieurs différends. Et après cela, j'ai eu à nouveau une pause spirituelle qui m'a fait assez mal, qui a vraiment pesé dans mon cœur. C'était pendant le CG, et je ne parle pas de l'électrocardiogramme, mais bien de l'école de culture générale. J'étais obligé de la faire, cette blague. C'était, comme qui dirait, le grand n'importe quoi dans ma vie spirituelle. Je n'avais pas une encre telle que Jésus dans mon âme. J'avais rien. Et à cette période, le groupe de caté dans lequel j'allais, ils nous ont proposé de nous faire baptiser. Mais j'ai refusé, car je ne me sentais pas prêt à accepter une telle alliance, parce que je ne comprenais pas bien ce que c'était. Et en quoi consistait cette alliance? À la fin de l'ECG et au début de mes études en soins infirmiers, ma sœur a rejoint le groupe de jeunes de cette église, chrétien tout terrain. Et je venais assez souvent, du coup, dans tous les mercredis soirs, et en même temps, je vais faire de la promotion. je venais tous les mercredis soirs et j'ai été super bien accueilli. Et puis je me suis senti aussi écouté, et je les remercie. Généralement, en hiver, je partais en vacances avec mes parents dans le Valais. C'était des vacances, mais parfaites, qui accumulaient ski, nourriture, wifi, console de jeux vidéo et peu de devoirs. Alors c'était des vacances merveilleuses, un véritable ciel bleu sur une plage. Et un jour, pendant ces merveilleuses vacances, ma mère est venue et m'a dit « L'année prochaine, Telmo, tu vas faire le camp de ski du CTT. » Et ce n'est pas une question, c'est une obligation. Alors moi, je dois être honnête, j'étais pas très content. J'ai râlé, mais parce que je voulais pas y aller. C'était pour moi les vacances parfaites, c'était les miennes. Et ça voulait dire que j'allais plus avoir ces vacances et que bon, Je connaissais ma mère. Si elle dit que c'est pas négociable, c'est vraiment pas négociable. Mais grâce à elle, pendant le premier grand ski, j'ai pu avoir des moments privilégiés avec, avec mes collègues, mes frères. Je sais pas comment on dit. Ouais, mais mes frères. Et ces moments où on a pu louer, on a pu prier, on a pu aussi discuter de Dieu avec eux, ont été des moments assez forts, même très forts. Et durant l'un des deux camps, durant ce camp-là, pendant la louange, j'ai été vraiment transformé parce que j'ai entendu Dieu me parler dans mon cœur. Et depuis ce jour-là, je vis de plus en plus avec Dieu. Durant les camps suivants, j'ai vécu absolument tous les camps, j'ai vécu des moments forts. Et pendant ces moments, ça m'est arrivé de me mettre à l'écart, de partir tel un magicien d'une salle. Plus personne ne savait où j'étais. Mais je m'isolais en fond. Et puis j'étais avec Dieu, moi, et les montagnes. Et c'est tout. Et je pouvais passer du temps avec lui. À chaque fois, il me prouve son amour pour moi. Comme s'il voulait me montrer que je suis unique. Et qu'il me veut, moi, dans son église. Alors, pourquoi j'ai choisi ce jour pour me baptiser? Enfin, c'est pas moi qui ai choisi le jour. J'ai choisi le baptême, c'est le principal. Mais ce qui est drôle, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai oublié de dire à mes parents que je me baptisais. Ils sont là, hein. Voilà. Mais j'ai oublié de dire à mes parents que je me baptisais. Et du coup, ils l'ont appris par Elisabeth, ma grand-mère, Oma pour les intimes. Que ma mère. Et du coup, ils l'ont appris par ma grand-mère. Et en fait, ma mère, elle est rentrée en trombe dans ma chambre et elle m'a dit c'est vrai que tu vas te baptiser? Puis à ce moment-là, je me suis dit ah oui, quand on se baptise, il faut souvent aussi informer les autres. Peut-être une option. Du coup, j'avais complètement oublié. Et puis ma sœur aussi, elle a été au courant, pas au même moment. Et du coup, je vous rassure, elle était quand même très contente. Hein. Mais comment c'est arrivé? Un jour, alors que j'étais dans ma voiture et que je roulais pour venir ici au groupe de jeunes, j'ai senti une voix me disant « Telmo, allume la radio ». Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je suis tombé sur une conférence autour du témoignage de victimes d'agressions sexuelles. Il faut dire que depuis un an, depuis mon retour de stage en soins infirmiers que j'ai fait au Cameroun, je suis intéressé au niveau professionnel de la prise en charge des victimes. Et pendant ce trajet, en écoutant cette émission, j'ai eu la conviction que je devais me faire baptiser. En arrivant au groupe de jeunes, je l'ai dit directement à Emeline, qui m'a dit « Trop cool !» Et pile à ce moment-là, on était en train de parler de ça, il y a Philippe qui arrive dans la pièce. Emeline me regarde, puis elle me fait « Mais quelle coïncidence !» Du coup, elle m'a poussé à aller lui parler. Et elle m'a dit « Va !» Et puis bah, du coup, je suis allé vers Philippe. Et j'ai dit à Philippe directement, bon, j'ai dit « Salut, comment tu vas ?» Évidemment, je ne sais pas comment c'est direct, pardon, pour faire ça, mais je lui ai dit directement « Je veux me baptiser. » Et il m'a dit « Ok, d'accord, mais prends le temps avant de me confirmer ta décision. » Je lui ai dit « Non, il ne faut pas que je prenne le temps. C'est maintenant que je dois me baptiser. Et je sais que je devais le faire. » Et ne pas le repousser à plus tard. Alors, pourquoi je veux me baptiser? Je veux me baptiser parce que je veux donner les commandes de ma vie à Dieu. Je veux lui montrer que j'ai la foi en lui et que je crois en le sacrifice de Jésus-Christ. Avant, je voyais le baptême comme quelque chose d'inaccessible pour moi, car j'étais imparfait. Et je le suis toujours. et je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin d'être un saint pour être à ses côtés. Et puis j'ai compris que le baptême est un droit à chacun, et que même si on n'est pas parfait de notre point de vue, il nous aime comme on est.
Waouh! Des parcours, c'est toujours ce qu'il y a de tellement touchant quand on accompagne des jeunes ou des moins jeunes, c'est de voir ces parcours et la façon dont Dieu intervient, jamais deux fois de la même façon, je crois. Kevin, tu viens nous dire pourquoi tu as, non seulement choisi d'être baptisé, ça c'est la deuxième partie, mais choisi un chant que tu as choisi soigneusement pour accompagner ce moment.
Alors j'ai choisi le chant « Mon encre et ma voile » parce que je trouve que c'est un bon moment pour poser l'encre de Jésus est le centre de ma vie et je veux continuer avec lui et je veux aussi qu'il soit mon guide, donc ma voile. Voilà. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Sachez que je suis super stressé de faire ce témoignage. Mais en tout cas, moi je vais bien et j'espère que vous allez bien. Donc je vais commencer par faire une petite présentation. Donc je m'appelle Kevin Saber, j'ai 16 ans. Mon père il est égyptien et ma mère elle est suisse. Donc je suis super content parce que j'ai une famille géniale où j'ai pu découvrir plein de cultures différentes. J'ai pu avoir une éducation très variée et des points de vue aussi différents. Ça a pu m'aider aussi pour la compréhension des choses, la communication avec les autres et à créer des liens d'amitié. Quand j'étais petit, j'allais déjà à l'église parce que je suis né dans une famille chrétienne et j'aimais énormément m'amuser avec les jeunes qui étaient là-bas. Et là, aujourd'hui, c'est encore une chose que je recherche beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et je l'ai retrouvé à plusieurs endroits, donc à l'église, au groupe de jeunes et à l'école aussi. Mais ce que je préfère le plus quand même, c'est les camps chrétiens que je fais l'été et aussi en avril. J'ai fait en tout 13 camps chrétiens dans ma vie de 16 ans, donc c'est quand même pas mal. Et dans chaque camp, j'ai fait des rencontres qui m'ont touché et qui m'ont aidé pour la suite de ma vie. J'ai rencontré des personnes qui m'ont touché, du coup, qui m'ont aidé dans les moments difficiles. Comme par exemple, il y a 2 ans, on a vécu une période très compliquée avec ma famille, des mois assez durs, rudes. Et il y a eu plusieurs personnes qui m'ont aidé, qui ont été là, qui m'ont écouté en parler et qui ont pris du temps pour me soutenir et pour prier pour moi. Mais durant ce moment, Dieu m'a aussi donné une énorme paix intérieure qui m'a bloqué tous les doutes et toutes les attaques que j'aurais pu subir pendant cette période. Et cette paix, je l'ai eue à ce moment-là, je ne l'avais jamais eue avant, et après, je ne l'ai plus beaucoup eue. C'était vraiment une paix que pour ce moment difficile que Dieu m'a donné. Et du coup, j'essaye d'expérimenter cette paix sans avoir trop de moments compliqués quand même dans ma vie, parce que j'aimerais vivre bien. Mais je vis avec Dieu, et je cherche cette paix et ses amitiés. Ces amitiés, du coup, je les cherche dans les camps, comme je l'ai dit déjà avant. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime énormément les camps, que je veux faire tous les camps qui sont possibles et imaginables, parce que dans ces camps, il y a des moments de sport, d'activité, de prière, et surtout des moments de louange. C'est ce que j'adore, vraiment, la louange, c'est un truc que j'ai découvert dans les camps et que j'ai continué à faire dans ma vie de tous les jours et dans ma vie personnelle aussi tout seul. J'aime tellement la louange que je me suis inscrit dans une chorale, Psalmodie. Franchement, elle est sympa cette chorale, si vous avez l'occasion, allez écouter. Ça fait 2 ans que je me suis inscrit dans cette chorale et franchement, c'est génial. J'ai pris un énorme plaisir à voir à chaque fois à quel point la chorale, elle peut toucher les gens, elle peut aider les gens et il y a des retours juste incroyable de conversion juste après le concert. Donc j'adore la louange avec Psalmodie, j'adore la louange dans les camps. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas faire un truc encore plus intensif. J'ai commencé Adonia. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un camp où en 3 jours, on prépare une comédie musicale sur un personnage de la Bible. Et on l'a fait à 4 endroits différents dans toute la Suisse romande. Il y en a pour qui c'est presque une manière de vivre, Adonia. C'est dans tous les jours de la vie. C'est un camp, du coup, qui se passe en avril et que j'ai commencé à faire depuis l'année passée. Et franchement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont touché encore une fois. Et j'adore, j'adore. Je vais continuer ça jusqu'à que je puisse plus. Mais... et sinon, il y a aussi les moniteurs. Hein. Je peux continuer après. Mais j'ai vécu aussi des moments assez compliqué où Dieu il m'a aidé à Adonia. Par exemple, j'ai fait Adonia cette année. Donc, une semaine de camp, on est 60, 70 à peu près. On est bien entouré que par des chrétiens et c'est génial. Mais y a eu des moments où je me sentais seul. Je me suis senti seul, même si j'étais entouré de 60, 70 personnes. Et on a eu un moment de prière où je voyais tous les gens qui se formaient, qui priaient entre eux, et moi j'étais tout seul au milieu de la pièce, entouré de 60 personnes, et je me sentais seul, sans Dieu, alors qu'on venait de faire un moment de louange, et Dieu, quand il y a de la louange, moi j'adore, je le vois toujours, mais là ouais, j'étais seul, et je priais seul, je pleurais dans mes mains, et il y a le directeur de ce camp qui est arrivé et qui a posé la main sur mon épaule. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'entendais rien de ce qu'il me disait, de ce qu'il parlait. Mais j'ai senti que, ouais, il y avait quelque chose qui passait de lui à moi. Et vraiment, ça m'a touché. J'ai commencé à pleurer encore plus. Ça a duré 30 minutes, je pense. C'était une expérience inexplicable et juste incroyable. Il est venu, Dieu est venu depuis le directeur jusqu'à mon épaule et dans mon corps. Et après, il y a d'autres personnes qui sont arrivées et qui ont prié pour moi. Et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pleuré encore plus, du coup. Et donc, c'était une expérience, et c'est toujours une expérience incroyable, Adonia. Et une dernière chose qui m'a motivée aussi beaucoup, c'est que je suis allé au caté depuis 4 ans. La semaine passée, on a eu le culte de fin de caté. Je suis allé au caté pendant 4 ans avec plein de moniteurs différents, avec Philippe qui a resté les 4 années. Mais juste, c'était un encouragement pour moi parce que dans ma vie de tous les jours, il y avait l'école, la maison, c'est tout. Et juste, il y avait un vendredi sur deux, le caté, qui venait un peu donner une sorte de courant d'air, qui venait juste donner une inspiration. Ça me coupait de tout et juste Dieu m'a donné des personnes encore à qui je pouvais parler et que je pouvais découvrir. Après le caté, il y a eu le groupe de jeunes, comme Telmo, il y a eu cet été où maintenant j'y vais quasi tous les mercredis et c'est génial. J'apprends plein de trucs sur Dieu, j'apprends plein de trucs sur moi, sur comment je vis ma vie. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de faire des péchés ou juste m'améliorer? Et il y a quelque chose que j'ai sauté aussi dans mon témoignage, là, à Adonia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, après ce moment justement où j'ai été touché, qui est très important pour moi, il m'a dit qu'il ne faut pas avoir peur de déranger pour ce qu'on dit ou pour ce qu'on fait, parce que Dieu, il nous écoute. Et moi, j'avais peur d'aller dans ces groupes, dans ces petits groupes de prière, de demander « Ah, vous pouvez prier pour moi ?» J'avais peur. Et lui, il est venu et il m'a dit « N'aie pas peur de déranger. N'aie pas peur de déranger. » Parce qu'au pire, Dieu, il t'entend. Dieu, il t'écoute. Et lui, tu ne vas pas le déranger. Et j'aimerais finir maintenant une dernière motivation dans ma vie, qui est mon verset préféré, qui est donc Genèse 21, verset 18, qui dit « Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et je trouve que dans ma vie de tous les jours, quand il y a des bas, je peux juste me rappeler de ce verset, et puis ça me relève. Je me relève et je me rappelle que Dieu est là pour me relever et pour m'aider. Donc, il me touche et il m'aide dans la vie de tous les jours. Et j'espère qu'il vous aidera aussi. Merci de m'avoir écouté, du coup.
Nous allons maintenant baptiser Telmo et Kevin. Et j'ai demandé aux baptisés de choisir avec qui il souhaitait que je les baptise. Donc, Telmo, tu as souhaité que ta frangine, Léana, de Bati. Je t'invite à t'avancer avec moi, Léana. Tellement tu peux te préparer, peut-être juste ôter tes chaussures, quand même. N'hésitez pas à vous lever si vous souhaitez. On va passer au baptistère. Tellement on a entendu ton magnifique témoignage il y a quelques instants. Moi, je suis impressionné de la façon dont Dieu est intervenu dans ta vie. Il le fera encore. Alors, est-ce que devant Dieu et puis devant cette belle assemblée pour témoins, ta famille, tes amis, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton Sauveur et Seigneur ?
Oui, je le confesse.
Alors, nous avons le grand plaisir de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais inviter Nathalie à bien vouloir s'approcher. Nathalie est quelqu'un qui a pu accompagner aussi Kevin ces dernières années. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir baptiser Kevin maintenant avec toi. Kevin, je t'invite à venir dans le baptistère. Alors Kevin, on a entendu ton témoignage, c'est un immense bonheur de te connaître depuis plusieurs années. Depuis 6 ans que je suis là, moi j'ai vu en toi vraiment un gars de qualité et je suis touché par ton témoignage, je pense que nous le sommes tous. Est-ce que devant cette assemblée pour témoins, devant Dieu, tu confesses que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur ?
Oui, maintenant, à partir de maintenant jusqu'à tous les jours.
Alors, nous avons le grand bonheur de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Voilà, on peut demander aux enfants, vous pouvez redescendre dans votre groupe en bas. Nous allons passer un petit moment pour prier pour Kevin et Telmo. Et ensuite, vous pourrez aussi prier à haute voix pour ce que nous vivons maintenant. Seigneur, je te remercie et je te loue, je te bénis pour ces deux jeunes hommes, pour Telmo, pour Kevin, pour leur engagement, engagement solennel devant nous. Et Seigneur, tu entends, tu vois, tu connais, et nous te bénissons parce que tu es fidèle, et tu vas les accompagner tous les jours de la vie, et tu vas être à leur côté. Ils t'ont fait confiance, et je sais que toi, tu ne les décevras pas. Nous te les bénissons maintenant. Amen. Amen.
Cher Seigneur, j'aimerais te prier pour Telmo et pour Kevin, te remercier pour leur vie, pour leur parcours, te remercier pour leur famille, leurs amis, te remercier pour toi, pour ta grâce. Merci parce que ce que tu as commencé en eux, tu vas le mener à bien, tu vas finir tout ça. Je te prie de faire la route avec eux comme tu as commencé de la faire et de leur faire cette grâce et cette joie de trouver leur force en toi. Prends soin d'eux, s'il te plaît. Prends soin de Telmo. Bénis-le dans la suite, la fin de sa formation et dans ce qui vient ensuite. Merci de prendre soin de Kevin aussi dans ses études, dans le parcours artistique aussi qu'il fait. Je te prie pour ces deux jeunes hommes de grande valeur. Et je te demande de déposer encore ta grâce dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, si une ou deux personnes veulent prier pour nos deux jeunes, faites-le à haute voix qu'on puisse bien vous entendre.
Oui, merci Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi qui as montré l'exemple en ton vie, qui as montré le chemin en premier. Et merci pour ces vignes qui se sont engagés avec toi et qui veulent te suivre, qui veulent te prendre du bâton, qui veulent marcher dans tes vies. Alors je te demande vraiment de les bénir, de les remplir de ton esprit. Dans ta paix, dans ta joie, malgré les situations de la vie qui changent, qui des fois sont difficiles, des fois sont remplies de joie. Mais toi, tu es celui qui ne change pas, celui qui tient chacun de nous dans ta vie. Merci pour tous tes liens.
Aujourd'hui.
Amen. On va encore chanter un chant pendant que nos deux jeunes vont se changer, ou je ne sais pas, s'ils veulent rester comme ça, ça va aussi, ça ne me gêne pas. Merci de votre patience. Je vous invite à vous lever.
Roger nous l'a fait deviner tout à l'heure. Si je vous dis Jean 3, 16, vous me dites « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes connaissent ce verset par cœur. Et il est tellement connu qu'on pourrait presque ne plus l'écouter. Il nous sort presque par les oreilles, parfois. On l'a tellement rabâché. Et en même temps, on estime à juste titre que ce verset résume bien et juste en quelques mots le cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est vrai. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'en citant ce verset, même dans une version dite en nouveau français courant, le message soit si facilement compris aujourd'hui. Alors je me suis fixé un double défi pour les 10-12 minutes que j'ai devant moi. Un double défi. Essayez de donner un relief nouveau à ce verset pour ceux et celles qui le connaissent déjà par cœur. Et essayer de le formuler dans des termes que tout le monde peut comprendre. Un mot sur le contexte. Ces versets-là, ils font partie d'un dialogue. Un dialogue entre Jésus et un homme prénommé Nicodème. Cet homme, c'est un pharisien. Les pharisiens, c'était le parti religieux juif majoritaire au temps de Jésus, et dont la plupart des membres se sont farouchement opposés à Jésus. C'est probablement pour cette raison que Nicodème vient voir Jésus en toute discrétion. Le texte nous dit « pendant qu'il fait nuit, pour ne pas être vu ». Et il engage, Nicodème, le dialogue avec Jésus. Et il le fait avec des paroles très respectueuses. Et Jésus, qui voyait Nicodème en venir aux choses importantes, répond alors à Nicodème par une phrase énigmatique. Il lui dit « Oui, Nicodème, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et là, Nicodème, qui est venu avec le cœur grand ouvert, il ne comprend pas. Quoi ? Mais comment pourrait-on retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau ? Mais voilà que la nouvelle naissance dont Jésus parle ici n'est pas de la même nature que notre venue au monde. Il s'agit de la naissance à une vie nouvelle, qui ne relève pas du ventre de notre mère, mais de l'Esprit de Dieu. C'est la vie éternelle dont parle notre fameux verset. Ce verset, il parle de l'amour de Dieu d'abord, au début de tout. Dieu a tellement aimé le monde. Et là, quand je l'écris sur mon ordinateur, quand je le dis, je me rends compte que très vite, ça peut bloquer. Comment peux-tu parler de l'amour de Dieu quand on regarde le monde qui nous entoure, quand on voit les guerres, quand on voit les migrants couler au large de la Méditerranée, quand on voit les catastrophes, quand on observe la crise climatique, quand on voit les injustices, on se demande bien comment on ose dire que Dieu nous aime. Vous me direz peut-être que le texte dit que Dieu a aimé le monde. Ce serait au passé. Ça voudrait dire qu'il ne l'aime plus, qu'il ne s'intéresse plus à nous, qu'il nous a laissé tomber. Mais non, bien sûr. Parce que la formule verbale, elle a son importance. D'autant qu'en grec, c'est une forme qui fait référence à un moment du passé, un événement accompli. Il y a donc eu un moment dans le passé où l'amour de Dieu pour le monde s'est manifesté. Et c'est la suite du verset qui le précise. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Une autre question se pose alors. Dieu a-t-il donc un Fils ? Le grand Dieu éternel aurait un Fils ? Alors pas au sens où nous pouvons l'entendre pour nous qui sommes père ou mère. Ce serait aussi absurde que la question de Nicodème demandant à Jésus comment on peut retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Non, là, c'est une façon imagée de parler de Dieu, et même mystérieusement, de pénétrer dans l'intimité de Dieu, d'entrevoir quelque chose de la richesse et de la complexité de Dieu. Dieu, être unique et absolu par définition, est aussi d'une complexité extrême. Pour l'évoquer, la Bible, elle parle du Père, du Fils, de l'Esprit-Saint. Le Dieu unique est aussi un Dieu multiple en lui-même. Un seul Dieu, en trois personnes distinctes, qui pourtant se complètent. Un Dieu en perpétuel mouvement. Un Dieu en perpétuelle relation. Un Dieu qui aime par nature. Et il y a là un mystère qui dépasse mon entendement et qui rejoint un autre mystère qui est pourtant proclamé haut et fort par les évangiles. Dieu a aimé le monde en donnant son Fils. Dieu n'a pas aimé le monde en solutionnant tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Il a aimé le monde en partageant nos souffrances solidaires jusqu'à la mort. Dieu a aimé le monde en devenant l'un des nôtres en Jésus. Sa naissance l'atteste. Dieu a aimé le monde en partageant notre condition de créature. Il a vécu parmi les humains. Il a fait preuve de compassion et de générosité. Il a parlé de Dieu comme nul autre et ses enseignements demeurent actuels aujourd'hui. Dieu a aimé le monde en acceptant de mourir. Lui, l'innocent, est devenu solidaire de notre humanité jusque dans ses limites et sa finitude. Dieu a aimé le monde enfin, en remportant la victoire sur la mort par la résurrection glorieuse de Jésus. C'est ça que nous racontent les évangiles. On peut toujours prétendre que c'est inventé ou que c'est enjolivé. Mais si c'est vrai, et je le crois, alors c'est bien la meilleure nouvelle de toute l'histoire de l'humanité. Une bonne nouvelle que nos baptisés ont accueillie et qu'ils se sont appropriés comme ils en ont témoigné. Et puis la deuxième moitié de notre verset souligne l'objectif de l'amour de Dieu, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle ? Il ne faut pas se tromper là. La vie éternelle, ce n'est pas l'immortalité. Qui voudrait vraiment de l'immortalité ? C'est-à-dire de poursuivre notre vie sans jamais mourir. On est d'accord, la vie, elle est belle, parfois, mais pas toujours. Notre vie, elle est aussi faite de souffrances, de difficultés, d'injustices, de frustrations, qu'on n'a pas du tout envie de vivre éternellement. Pour que la vie éternelle soit vraiment une bonne nouvelle, il faut autre chose qu'une vie qui ne s'arrête jamais. La vie éternelle, ce n'est pas l'immortalité. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu. C'est une vie remplie de la présence du Dieu éternel. L'espérance chrétienne n'est pas d'avoir une vie ici-bas qui ne se termine jamais. La mort fait partie de la vie. D'ailleurs, Dieu en Jésus est venu partager nos souffrances jusqu'à la mort. L'espérance chrétienne, c'est de laisser la vie en Dieu faire irruption dans notre vie, une vie qui, elle, n'est plus affectée par la mort. L'assurance chrétienne, c'est que rien, même pas la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pour saisir et pour vivre cette promesse, il faut juste croire. Non pas être crédule, non pas être naïf, non pas tout avaler tout cru, mais choisir de faire confiance à Dieu et entrer dans une relation personnelle avec lui. Interroger les choses, interroger les circonstances, mettez en question la foi, mais entrer dans une relation avec Dieu. La foi, elle ne s'oppose ni à la raison, ni au sentiment. La raison, elle a sa place dans la vie du croyant. Il y a une intelligence de la foi. Il est essentiel que nous réfléchissions à notre foi, à la cohérence de ce que nous croyons et que nous soyons capables d'affirmer, d'argumenter, de défendre, d'affermir notre foi. Les sentiments et les émotions aussi ont leur place dans la vie d'un croyant. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de croyance abstraite, théorique, mais c'est une réalité à vivre dans toutes les dimensions de notre vie. Mais fondamentalement, c'est la foi qui nous permet de connaître Dieu. Pas la raison, pas les sentiments. Si on attend d'avoir une certitude absolue de l'existence de Dieu pour devenir chrétien, on ne le deviendra jamais. Si notre vie chrétienne est portée par les seules émotions fortes d'une expérience spirituelle intense, on va au-delà de grandes difficultés. Parce que les émotions, ça va et ça vient. La foi, croire en Dieu, c'est choisir de lui faire confiance. Malgré les doutes, malgré les questions, malgré les frustrations, malgré les blessures enfouies en nous, lui faire confiance. C'est la foi qui nous relie à Dieu. Elle vient éclairer de la présence de Dieu toutes les sphères de notre existence, y compris notre raison et nos émotions. C'est pourquoi la vie éternelle, à laquelle la foi ouvre, n'est pas simplement une promesse à venir après la mort. Elle est la réalité d'une vie nouvelle, dès aujourd'hui, dans la présence du Dieu vivant et éternel. Elle fait passer de la mort à la vie, elle nous fait naître à une vie nouvelle. La vraie vie éternelle. Tout est dit. Tout est dit. L'amour de Dieu a été pleinement manifesté dans la personne de Jésus. L'invitation nous est lancée de croire, de faire confiance à Dieu afin d'entrer dans une vie nouvelle, une vie avec Dieu. Tout est dit. Mais tout reste à vivre. Parce que la foi n'est pas qu'une décision prise une fois pour toutes, c'est un choix à renouveler sans cesse tout au long de notre cheminement ici-bas. C'est aussi à ça que sert une église, un groupe de jeunes, le caté. Renouveler la foi. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est chrétienne, ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on ne connaît plus d'épreuves et de difficultés. Qu'on n'a plus jamais de doute ou d'interrogation. Sans cesse, nous sommes appelés à croire, à choisir de placer notre confiance en Dieu. Nous sommes appelés à nous approprier cette belle promesse comme si elle nous disait « Dieu m'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Il s'est donné lui-même. » Afin que si je place ma confiance en lui, je découvre chaque jour et pour toujours la vie avec Dieu, la vraie, la belle, la grande vie avec Dieu. Alors dans quelle mesure est-ce vrai pour moi aujourd'hui? Quels sont les obstacles qui m'empêchent de vivre pleinement la vie avec Dieu? Je vois dans ce verset une invitation qui nous est faite à chacun, à chacune, de nous approcher de Dieu, de lui dire notre besoin de lui, et de démarrer, comme Telmo, comme Kevin, quelque chose de neuf. Que Dieu vous bénisse.
Je vous invite à continuer ce petit moment de silence pour que ça résonne. Oui Seigneur, merci, merci d'être venu, merci de t'être livré volontairement. Merci pour cette vie nouvelle, cette vie éternelle, cette vie en présence de toi que tu nous offres encore ce matin. Te bénissons. Amen. Voilà, nous arrivons à la conclusion de ce culte. Vous êtes cordialement invités à côté pour un moment convivial, un apéro. On pourra entourer nos deux jeunes et tous et pouvoir partager ensemble. Les annonces vont être affichées. Juste pour vous rappeler que dimanche prochain commencent les cultes avec la paroisse protestante de la cité, donc en alternance. Dimanche prochain, c'est ici à 10h. Le CTT, hein, il y a une bonne pub, allez-y. Le Cathé aussi. Et puis, je crois que Claudie aura encore un petit peu besoin d'aide pour Mère-à-les-Bains le 7 juillet, où notre église est présente au centre commercial. Claudie est à la sortie avec une belle affiche.
Tout le monde est invité pour l'inauguration demain à 18h derrière le centre commercial.
Demain, inauguration Mère-à-les-Bains, 18h derrière le centre commercial. C'est aussi sympa d'aller et rencontrer les autres associations de Mérins. Autrement, Mireille, mon épouse et moi, nous allons participer au Kids Game cet été, de nouveau, deux camps qui ont lieu au Parc des Évaux. Le montage des tentes et des chapiteaux, c'est un grand truc qui se fait. Ceux qui veulent venir nous aider avec des bras, vous êtes les bienvenus, vous pouvez me contacter, c'est le 27 et 28, 29 juillet. Voilà. Nous allons avoir la bénédiction maintenant, avant de nous séparer. Il y aura ensuite, après, une petite annonce de la part du Conseil.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que Dieu, qui vous a tellement aimé, qui vous aime tellement, que Dieu vous accompagne, vous réjouisse et vous garde dans la joie et dans la paix. Je vous invite à vous rasseoir pour une courte annonce de la part du Conseil.
Alors ce matin, vous m'avez...